9h30 sur l'antenne de Peps Radio 93.7 FM sur Gisors et ses environs. Et puis si vous voulez nous écouter d'un petit peu plus loin, eh bien il y a internet pour ça. Il suffit, pour avoir toutes les informations, d'aller sur Facebook, de taper dans la barre de recherche Peps Radio Gisors et puis vous tombez sur nous. Et ainsi vous obtiendrez plein de petites informations qu'on n'obtient pas juste en écoutant l'antenne, bien entendu. Il est l'heure, parce qu'il est 9h34, de toute façon, de retrouver Amanda et Damien qui vont nous parler du château de Gisors. Bonjour à vous.
Bonjour, je m'appelle Damien.
Et moi, Amanda.
Nous habitons tous les deux à Gisors.
On entend parler du château de Gisors et de sa légende.
On va vous en parler aujourd'hui.
Le château de Gisors est un ancien château fort. Sa construction a commencé dans la seconde moitié du XIe siècle.
En 1097, le roi d'Angleterre, Guillaume le Roux, donne l'ordre de construire un château sur l'Epte.
Depuis 911, ce petit cours d'eau était la frontière entre le royaume de France et les terres des maîtres de la Basse-Seine.
Le château accueille de nombreuses entrevues entre souverains anglo-normands et français.
Comme il occupe un emplacement stratégique, il subit des aménagements. Le donjon est consolidé et rehaussé de 2 étages.
Les fossés sont agrandis, une nouvelle enceinte longue de 800 mètres et flanquée de 8 tours est construite. S'y ajoute ensuite la tour du prisonnier et le logis royal.
En 1158 et 1161, 3 chevaliers de l'ordre du Temple seraient restés dans la forteresse, puis le château perd son rôle militaire, il devient une prison.
Il accueillera des prisonniers célèbres, en particulier Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre des chevaliers du Temple.
Devenu inutile, le château est négligé. En 1591, la forteresse est déclassée.
Selon certaines légendes, le château d'Isor sera le lieu de cachette du trésor des Templiers.
Dans les années 1950, le gardien du château, Roger Lemoy, entreprit de creuser un puits et d'explorer les souterrains et les cavités.
Cet homme assura avoir découvert des salles souterraines ainsi qu'une chapelle contenant 10 coffres moyenâgeux.
Le maire et plusieurs habitants se rendirent sur les lieux, mais le souterrain était tellement profond et dangereux que personne ne voulut descendre.
Le gardien reçut l'ordre de reboucher les cavités et la cour fut ensuite bétonnée.
Dès 1960, des archéologues organisent des fouilles. Après 3 années sans rien trouver, ils abandonnent.
La ville de Gisors est alors divisée en 2 clans. Ceux qui croient et ceux qui nient, la presse et la télévision s'emparent de l'affaire.
En 1964, André Malraux, le ministre de la Culture, envoie le 5e génie militaire de Rouen entreprendre des fouilles dans la motte.
Mais les militaires ne trouvent rien, pas de traces d'une salle souterraine ou de coffre.
Aujourd'hui encore, certains recherchent à Gisors le trésor de l'ordre du Temple.
Nous sommes allés faire un micro-trottoir à Gisors pour savoir ce que les gens pensent du château. Écoutons-les. Est-ce que vous aimez le château de Gisors ?
Moi, j'aime me promener de temps en temps, mais bon, on se sent pas en sécurité dans le château.
Oui, j'aime beaucoup le château d'Isor, je le trouve super intéressant au niveau extérieur et aussi bien à l'intérieur. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose à visiter.
Oui. Oui, oui.
Allez-vous souvent au château de Gisors ?
J'y vais souvent, mais surtout pour des pique-niques avec des amis, surtout avec ce beau temps. Mais sinon, en hiver, non.
Non, pas du tout.
Ça fait combien de temps que vous connaissez le château de Gisors ?
Ça fait 10 ans.
Depuis que je suis née. C'est-à-dire que je suis née à Gisors, donc j'ai toujours connu le château de Gisors.
17 ans.
D'accord, merci.
Merci. Merci, super sympa.
Nous avons interviewé M. Gonsalves. Il travaille à l'office de tourisme de Gisors. Il a gentiment répondu à nos questions. Écoutons-le.
Dans quel but le château de Gisors a-t-il été construit ?
Alors, le château de Gisors a été construit donc à la fin du XIe siècle pour défendre donc le territoire qui appartenait au duc de Normandie et qui depuis 1066 en conquérant l'Angleterre était devenu roi d'Angleterre. Donc l'idée était de protéger ce territoire des velléités que pouvait avoir le roi de France vis-à-vis de ce territoire tout proche.
Pourquoi le délaisse-t-on ?
Alors, quand le château de Gisors est démilitarisé donc au XVIIe siècle, en fait, on décide de lui enlever ses moyens de défense parce qu'en fait, la France est en quelque sorte réunifiée, c'est-à-dire que les territoires qui étaient aux mains des Anglais sont retournés donc sous le giron du roi de France et que lors de guerres internes, comme les guerres de religion, les châteaux qui étaient à l'intérieur du territoire pouvaient présenter des points de repli pour les ennemis du roi de France et pour les gens qui contestaient le pouvoir du roi de France. Donc comme le château de Gisors n'est plus à une frontière, puisque la frontière s'est déplacée au bord de la mer, comme il n'est plus à une frontière, eh bien on décide de le rendre inoffensif pour pas qu'il serve de base arrière ou de retranchement pour des ennemis potentiels.
Que savez-vous du trésor des Templiers ?
Ah, qu'est-ce qu'on fait sur le trésor des Templiers ? Bah, déjà, une chose est sûre, c'est que je sais que c'est pas moi qui l'ai. Donc, après, le trésor des Templiers, en fait, est une histoire qui est très très longue et qui mérite vraiment, à elle toute seule, je dirais, je pense, un interview complet. Donc, les Templiers est un ordre militaire qui a réellement existé, qui défendait les pèlerins en territoire d'Orient, puisque donc il y a effectivement des sites religieux en Orient. Et les Templiers, par cette action, ont acquis une certaine notoriété, un certain pouvoir, qui les ont rendus à la fois puissants et riches. Et donc on a soupçonné donc les Templiers d'avoir amassé des trésors importants. Et donc lorsque le roi de France a décidé donc de se débarrasser en quelque sorte de l'ordre, c'était vraiment pour récupérer leurs trésors, pour récupérer leurs biens plus exactement, et se débarrasser en même temps de cette puissance qui le nuisait. Et donc on a le trésor des Templiers a été caché un peu partout en France et en Europe, et à un moment donné il y a une histoire qui a été raconté et le trésor aurait été caché dans le château de Gisors. Donc ça après c'est une histoire aussi qui mérite d'être racontée et qui est assez intéressante. Mais donc effectivement l'idée qu'un trésor ait été caché à Gisors a bien eu une réalité historique puisqu'il y a eu des fouilles archéologiques de fait pour retrouver ce trésor. À l'heure d'aujourd'hui le trésor des Templiers reste toujours un mystère et qui va le trouver, là est la question.
Quels sont les indices qui peuvent permettre de penser que le trésor se trouve toujours au château de Gisors ?
Alors on n'a pas d'indices malheureusement qui pourraient nous laisser penser que le trésor est plus caché à Gisors ou ailleurs. Déjà on n'est pas sûr à 100% que les Templiers aient laissé un trésor quelque part. Ou quelle est la nature de ce trésor ? Est-ce que c'est un trésor en connaissance historique ? Est-ce que c'est un trésor en pièces sonnantes et trébuchantes ? Donc aujourd'hui nous n'avons pas d'indices qui peuvent nous laisser penser qu'il y a toujours un trésor à Gisors. Par contre, on a un château qui, lui, est un magnifique trésor, et on a un autre trésor, mais c'est le rêve et l'imagination que nous procure ce monument magnifique.
Combien de touristes vous demandent des précisions sur le trésor ?
Alors, c'est difficile, on ne peut pas quantifier le nombre de touristes précisément qui nous demandent. C'est-à-dire que tous les gens qui font la visite du château de Gisors, c'est-à-dire près un peu plus de 4000 personnes, sont sensibilisés à cette question du trésor ou posent des questions au guide sur le trésor. Après, à l'office de tourisme, les visiteurs qui demandent des questions sur le trésor ou sur les Templiers, il y en a un certain nombre. Maintenant, c'est vraiment au sein de la visite, au moment de la visite, que les questions sont formulées. C'est pas forcément à l'office de tourisme quand les gens sont en train de préparer leur voyage ou recherchent des informations sur leur voyage.
Quelles sont les parties du château encore existantes ?
Alors aujourd'hui, il y a des parties qui ne se visitent plus pour le moment parce qu'elles sont en restauration. Mais globalement, si la visite était complète, les visiteurs pourraient accéder à ce qu'on appelle la tour du gouverneur. Donc c'est le système qui permettait de manipuler la porte pour l'ouverture du château, donc la herf, donc ce qu'on appelle la salle des gardes. Ensuite, on a la tour du prisonnier, qui est une tour qui a été construite par Philippe Auguste et qui comporte 3 étages. Celle-ci sera accessible aussi. Après, il y a la partie du donjon, donc c'est la partie qui est à peu près au centre et qui est constituée d'une motte de terre sur laquelle il y a un mur d'enceinte et une tour. C'est la partie la plus ancienne du château. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'accueil, où là on a une petite salle où l'on présente des objets et on a ce qu'on appelle une petite salle d'interprétation où on explique finalement les monuments. Après, tout le reste n'est pas accessible puisque ce sont des remparts et des tours qui sont donc ouvertes et donc que l'on peut découvrir et que l'on peut apprendre aussi à découvrir, mais elles ne sont pas visitables à proprement parler.
Combien le château accueille-t-il de visiteurs par an ?
Donc le château accueille un peu plus de 4000 visiteurs par an en visite guidée, c'est-à-dire des gens qui payent un droit d'entrée pour découvrir le château et en apprendre plus sur ce monument qui est vraiment prestigieux. Par contre, le nombre de personnes qui entrent dans le château est beaucoup plus important puisque, vous le savez peut-être, le parc du château est un parc public. Ça veut dire que le château est accessible librement et gratuitement. C'est seulement la visite guidée qui est payante. Donc, par contre, le nombre de personnes qui entrent dans le parc n'est pas comptabilisé. Mais on pense, parce qu'on a fait des calculs il y a longtemps maintenant, que l'on pourrait multiplier le chiffre que je vous ai donné par 3 ou 4 en nombre de fréquentations du site, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent. Donc 3 fois 4, 12, ça ferait à peu près donc 12 000 visiteurs par an sur le château, tout confondu.
Quelles sont les manifestations organisées autour du château ?
Alors le château, donc, comme je l'ai dit, est un parc public, donc c'est vrai que c'est un parc que l'on veut vraiment mettre à disposition pour différents types d'événements. Il y a un événement qui est porté par la ville et qui est l'événement phare qui met en valeur le château de la manière la plus magnifique possible, c'est Gisors la légendaire. Ça a eu lieu le week-end dernier, c'est un son et lumière qui raconte une histoire qui est différente chaque année et qui met le château vraiment sous les plus beaux habits puisqu'il est à la fois éclairé, il y a de l'artifice, il y a du laser, il y a de la projection d'image. Donc c'est vraiment le spectacle qui magnifie le plus le monument. Après, il y a d'autres événements qui ont lieu dans le château, soit organisés par la ville, soit organisés par les associations. L'autre feu d'artifice qui est organisé par la ville est celui des fêtes de la Libération à la fin du mois d'août.
Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Mais je vous remercie à vous. Au revoir.
Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Et maintenant, nous allons écouter Millionnaire de Soprano.
Je veux être riche de ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Je suis à découvert. Si tu m'aimes.
richesse, ma gloire, mon ivresse. Soit mon échelle pour monter l'Everest, soit mon alliance, ma marque de noblesse. Dans la course au bonheur, soit mon moteur, ma vitesse. Je veux être riche en humanité pour pouvoir en laisser un pourboire. La cupidité nous a endettés. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir.